Chapitre 9. Un ami improvisé. Pendant quelques instants qu'elle demeura seule, Marcel fit rapidement beaucoup de réflexions, et bientôt elle sentit que l'amour lui donnait une énergie dont elle n'eût pas été capable peut-être sans cette toute-puissante inspiration. Au premier aspect, elle avait été un peu effrayée de ce triste manoir, l'unique demeure qui lui restât en propre. Mais en apprenant que cette ruine même n'allait bientôt plus lui appartenir, elle se prit à sourire en la regardant avec une curiosité complètement désintéressée. L'écusson seigneurial de sa famille était encore intact au manteau des vastes cheminées. « Ainsi, se dit-elle, tout va être rompu entre moi et le passé. Richesse et noblesse s'éteignent de compagnie au jour d'aujourd'hui, comme dit ce bricolin. Oh mon Dieu, que vous êtes bon d'avoir fait l'amour de tous les temps et immortel, comme vous-même. » Suzette entra, portant le nécessaire de voyage que sa maîtresse avait demandé pour écrire. Mais en l'ouvrant, Marcel jeta par hasard les yeux sur sa soubrette et lui trouva ainsi une très expression en contemplant les murailles nues du vieux castel qu'elle ne put s'empêcher de rire. La figure de Suzette se rembrunit davantage et sa voix prit un diapason de révolte bien marqué. « Ainsi, dit-elle, madame est résolue à coucher ici ?»« Vous le voyez bien, répondit Marcel. » Et vous avez là un cabinet pour vous, avec une vue magnifique et beaucoup d'air. Je suis fort obligé à madame, mais madame peut être assurée que j'y coucherai pas. Oh, j'y ai peur en plein jour, que serait-ce la nuit? On dit qu'il y revient, et j'ai pas de peine à croire. Mais vous êtes folle, Suzette, je vous défendrai contre les revenants. Madame aura la bonté de faire coucher ici quelques servantes de la ferme, car j'aimerais mieux m'en aller tout de suite au pied de cet affreux pays. Oh, vous le prenez tragiquement, Suzette. Je veux vous contraindre en rien. Vous coucherez où vous voudrez. Cependant, je vous ferai observer que si vous preniez l'habitude de me refuser vos services, je me venais dans la nécessité de me séparer de vous. Si madame compte rester longtemps dans ce pays-ci et habiter cette masure, je suis forcé d'y rester un mois et peut-être davantage. Quand voulez-vous conclure? Que je demanderai à madame de vouloir bien me renvoyer à Paris ou dans quelque autre terre de madame, car je fais serment que je mourrai ici au bout de 3 jours. « Ma chère Suzette, répondit Marcel, avec beaucoup de douceur, je n'ai plus d'autre terre, et je ne retournerai probablement jamais demeurer à Paris. Je n'ai plus de fortune, mon enfant, et il est probable que je ne pourrai vous garder longtemps à mon service. Puisque ce séjour vous est odieux, il est inutile que je vous l'impose durant quelques jours. Je vais vous payer vos gages et votre voyage. » La patache qui nous a amenés n'est pas repartie. Je vous donnerai de bonnes recommandations et mes parents vous aideront à vous placer. Mais comment, madame, veut-elle que je m'en aille comme cela toute seule? Vraiment, c'était bien la peine de m'amener si loin dans un pays perdu. J'ignorais que j'étais ruiné et je viens de l'apprendre à l'instant même, répondit Marcel avec calme. Ne me faites donc pas de reproches. C'est involontairement que je vous ai causé cette contrariété. D'ailleurs, vous ne partirez pas seul. La pierre retournera à Paris avec vous. Madame renvoie aussi la pierre ? Reprit Suzanne consternée. Je ne renvoie pas la pierre. Je le rends à ma belle-mère qui me l'avait donnée et qui reprendra avec plaisir ce vieux et bon serviteur. « Allez dîner, Suzette, et préparez-vous à partir. » Confondu du sang-froid et de la tranquille douceur de sa maîtresse, Suzette fondit en larmes, et par un retour d'affection peut-être irréfléchi, elle la supplia de lui pardonner et de la garder auprès d'elle. « Non, ma chère fille, répondit Marcel, vos gages sont désormais au-dessus de ma position. Je vous regrette malgré vos travers et peut-être me regretterez-vous aussi malgré mes défauts. Mais c'est un sacrifice inévitable et le moment où nous sommes n'est pas celui de la faiblesse. » « Mais qu'elle veut devenir, madame, sans fortune, sans domestique, avec un petit enfant sur les bras, dans un pareil désert, ce pauvre petit Édouard ?»« Ne vous affligez pas, Suzette. Vous vous placerez certainement chez quelqu'un de ma connaissance. Nous nous reverrons. Vous reverrez Édouard. Ne pleurez pas devant lui, je vous en supplie. » Suzette sortit. Mais Marcel n'avait pas encore mis sa plume dans l'encre pour écrire que le grand farinier parut devant elle, portant Édouard sur un bras et un sac de nuit sur l'autre. « Ah !» lui dit Marcel en recevant l'enfant qu'il déposa sur ses genoux. « Vous êtes donc toujours occupé à m'obliger, monsieur Louis. Je suis bien aise que vous ne soyez pas encore parti. » Je ne vous avais presque pas remercié, j'aurais eu du regret de ne pas vous dire adieu. « Non, je suis pas encore parti, » dit le meunier, « et à dire vrai, je suis pas très pressé de m'en aller. Mais tenez, madame, si ça vous est égal, vous ne m'appellerez plus monsieur. Je suis pas un monsieur, et de votre part, ça me contrarie au présent, cette cérémonie. Vous m'appellerez Louis, tout court, ou grand Louis, comme vous tout le monde. Mais je vous ferai observer que cela sera très contraire à l'égalité, et que d'après vos réflexions de ce matin... Bon, ce matin, j'étais une bête, un cheval, et un cheval de moulin qui pillait. J'avais des préventions à cause de la noblesse et de votre mari, que sais-je. Si vous m'aviez appelé Louis, je crois que je vous aurais appelé. Comment vous appelez-vous ?
Marcel.
Ah, j'aime assez ce nom-là, madame Marcel. Eh bien, je vous appellerai comme cela. Ça ne me rappellera plus, monsieur le marron.
Mais si je ne vous appelle plus monsieur, vous m'appellerez donc Marcel tout court, dit madame de Blanchemont en riant.
« Ah non, non, vous êtes une femme, et une femme comme il y en a peu, oh, le diable m'emporte. Tenez, je m'en cache pas, je vous porte dans mon cœur, surtout depuis un moment. »«
Pourquoi depuis un moment, grand Louis ?» dit Marcel, qui commençait à écrire et qui n'écoutait plus le meunier qu'à demi.
« C'est que pendant que vous causiez avec votre fille de chambre tout à l'heure, j'étais là dans l'escalier avec votre coquin d'enfant qui me faisait mille niches pour m'empêcher d'avancer, et malgré moi j'ai entendu tout ce que vous disiez. Je vous en demande pardon. »
Il n'y a pas de mal à ça, dit Marcel. Ma position n'est pas un secret puisque je la faisais connaître à Suzette. Et d'ailleurs je suis certaine qu'un secret serait bien placé entre vos mains.
« Un secret de vous serait placé dans mon cœur, » reprit le meunier attendri. « Ah, ça, vous ne saviez donc pas avant de venir ici que vous étiez ruiné ?»«
Non, je ne le savais pas. C'est monsieur Bricolin qui vient de me l'apprendre. Je m'attendais à des pertes réparables, voilà tout. »«
Et vous n'en avez pas plus de chagrin que cela ?»
Marcel, qui écrivait, ne songea pas à répondre, mais au bout d'un instant, elle leva les yeux sur le grand Louis et le vit debout devant elle, les bras croisés, et la contemplant avec une sorte d'enthousiasme naïf et d'étonnement profond. « C'est donc bien surprenant, lui dit-elle, de voir une personne qui perd sa fortune sans perdre l'esprit. D'ailleurs, ne me restait-il pas de quoi vivre ? Ce qui vous reste, oh, je le sais à peu près. Je connais vos affaires peut-être mieux que vous. Car le père Bricolin, quand il a bu un coup, elle m'a causé. Il m'a assez cassé la tête de tout cela, alors que ça m'intéressait guère. Mais c'est égal, voyez-vous, une personne qui voit, sans sourciller, 1 million d'un côté, 1 demi-million de l'autre, s'en aller de devant elle, craquant d'un clin d'œil. J'ai jamais vu cela, et je le comprends pas encore. Vous comprendriez encore moins si je vous disais que, quant à ce qui me concerne, cela me fait un plaisir extrême. « Ah, mais par rapport à votre fils !» dit le meunier, en baissant la voix, pour que l'enfant qui jouait dans la pièce voisine n'entendît pas ses paroles. « Mais au premier moment, j'ai été un peu effrayé, » répondit Marcel. « Et puis, je me suis bientôt consolé. » Il y a longtemps que je me dis que c'est un malheur que de naître riche et d'être destiné à l'oisiveté, à la haine des pauvres, à l'égoïsme et à l'impunité que donne la richesse. J'ai regretté bien souvent de n'être pas fille et mère d'ouvrier. À présent, Louis, je serai du peuple et les hommes comme vous ne se méfieront plus de moi.
Vous ne serez pas du peuple, dit le meunier. Il vous reste encore une fortune qu'un homme du peuple regarderait comme immense, quoique ce ne soit pas grand-chose pour vous. D'ailleurs, ce petit enfant a des parents riches qui ne le laisseront pas élever comme un pauvre. Tout cela, madame Marcel, c'est donc des romans que vous vous faites. Mais où diable avez-vous donc pris ces idées-là? Il faut que vous soyez une sainte, le diable m'enlève. Ça me fait un singulier effet de vous entendre dire des choses pareilles, quand toutes les autres personnes riches ne songent qu'à le devenir davantage. Ha! Vous êtes la première de votre espèce que je vois. Est-ce qu'il y a à Paris d'autres riches et d'autres nobles qui pensent comme vous?
Il n'y en a guère, je dois en convenir. Mais ne m'en faites pas tant de mérite, grand Louis. Un jour viendra où je pourrai peut-être vous faire comprendre pourquoi je suis ainsi.
Faites excuse, mais je m'en doute.
Oh non.
Si, faites. Et la preuve, c'est que je ne peux pas vous le dire. Ce sont des affaires délicates, et vous me diriez, je suis trop osé de vous questionner là-dessus. Si vous saviez, pourtant, comme sur ce chapitre-là, je suis penaud et capable de comprendre les peines des autres. Je vous dirai mes soucis, moi. Oui, oh, le tonnerre m'écrase, je vous les dirai. Il n'y aura que vous et ma mère qui saurez cela. Vous me direz quelques bonnes paroles qui me remettront peut-être l'esprit. Et si je vous disais à mon tour que je m'en doute? Vous devez vous en douter. Preuve qu'il y a de l'amour et de l'argent mêlés dans toutes ces affaires-là.
Mais je veux que vous me fassiez vos confidences, grand Louis.
Mais voici le vieux Lapierre qui monte.
Nous nous reverrons bientôt, n'est-ce pas?
Il le faut, dit le meunier en baissant la voix, car j'ai sur vos affaires avec le Bricolin bien des choses à vous demander. J'ai peur que ce gaillard-là ne vous mène un peu trop durement, et qui sait, tout paysan que je suis, je pourrais peut-être vous rendre service. Voulez-vous me traiter en ami?
Mais certainement.
Et vous ne ferez rien sans m'avertir.
Je vous le promets, ami.
Voici la pierre. Faut-il que je m'en aille? Oh, elle est ici à côté avec Édouard. J'aurais peut-être besoin de vous consulter si vous avez le temps d'attendre quelques minutes de plus. C'est dimanche d'ailleurs. Ça serait tout autre jour.
Chapitre 10. Correspondance. Lapierre entra. Suzette lui avait déjà tout dit. Il était pâle et tremblant. Vieux et incapable d'un service pénible, il n'était pour Marcel qu'un porte-respect en voyage. Mais sans lui avoir jamais exprimé, il lui était sincèrement attaché et malgré l'aversion qu'il éprouvait déjà, aussi bien que Suzette pour la vallée noire et le vieux château, il refusa de quitter sa maîtresse et déclara qu'il la servirait pour aussi peu de gages qu'elle jugerait à propos de lui en donner. Marcel, touché de son noble dévouement, lui serra affectueusement les mains et vainquit sa résistance en lui démontrant qu'il lui serait plus utile en retournant à Paris qu'en restant à Blanchemont. Elle voulait se défaire de son riche mobilier, et la pierre était très capable de présider à cette vente, d'en recueillir le prix et de le consacrer au paiement des petites dettes courantes que Madame de Blanchemont avait pu laisser à Paris. Probe et entendue, la pierre fut flattée de jouer le rôle d'une espèce d'homme d'affaires, d'un homme de confiance à coup sûr, et de rendre service à celle dont il se séparait à regret. Les arrangements de départ furent donc faits. Ici, Marcel, qui pensait à tous les détails de sa position avec un sang-froid remarquable, rappela le grand Louis et lui demanda s'il pensait qu'on pût vendre dans le pays la calèche qu'elle avait laissée à...
Ben, si vous brûlez vos vaisseaux, répondit le meunier, tant mieux pour nous. Vous resterez peut-être ici et je demande qu'à vous y garder. Je vais souvent à Anne pour des affaires que j'y ai et pour voir une de mes sœurs qui est établie. Je sais à peu près tout ce qui se passe dans ce pays-là et je vois bien d'ailleurs que tous nos bourgeois, depuis quelques années, ont la rage des belles voitures et de toutes les choses de luxe. J'en sais un qui veut en faire venir une de Paris. La vôtre est toute rendue, ça lui épargnera la dépense du transport. Et dans notre pays, tout en faisant de grosses folies, on regarde encore aux petites économies. Elle m'a paru belle et bonne, cette voiture. Combien cela vaut-il une affaire comme ça? Oh, 2 000 francs. Voulez-vous que j'aille avec Monsieur Lapierre jusqu'à... Je le mettrai en rapport avec les acheteurs et il touchera l'argent, car chez nous, on ne paie comptant qu'aux étrangers.
Si ce n'était pas abusé de votre temps et de votre patience, vous feriez seul cette affaire.
J'irai avec plaisir. Mais ne parlez pas de cela, monsieur Bricolin, il serait capable de vous voir acheter, lui, la calèche.
Eh bien, pourquoi non?
Ah bon? Il manquerait plus que ça pour faire tourner la tête aux personnes de sa famille. D'ailleurs, le bricolat trouverait moyen de vous la payer moitié de ce qu'elle vaut. Je vous dis que je m'en charge.
En ce cas, vous me rapporterez l'argent, s'il est possible. Car je croyais avoir à en toucher ici, au lieu qu'il me faudra sans doute en restituer.
Eh bien, nous partirons ce soir, à cause du dimanche, ça ne me dérangera pas. Et si je ne reviens pas demain soir ou après-demain matin, avec 2 000 francs, prenez-moi pour un vantard.
Que vous êtes bon, vous, dit Marcel, en songeant à la rapacité de son riche fermier.
Il faudra que je vous rapporte aussi vos malles que vous avez laissées là-bas, dit le grand Louis.
Oui, si vous voulez bien louer une charrette et me les faire envoyer.
Non, pas. À quoi bon louer un homme et un cheval? Je mettrai Sophie au tombeau et je parie que Mademoiselle Suzette aimera mieux voyager en plein air sur une botte de paille avec un bon conducteur comme moi qu'avec cet enragé patachon dans son panier à salade.
Bon, tout ça n'est pas dit. Il vous faut une servante.
Celles de M. Bricolin ont trop d'occupations pour amuser votre coquin d'enfant du matin au soir.
Ah, si j'avais le temps, moi, nous ferions une belle vie ensemble avec ça que j'adore les enfants et que celui-là a plus d'esprit que moi. Je vais vous prêter la petite Fanchon, là, servante à ma mère. Nous nous en passerons bien pendant quelque temps. Une petite fille qui aura soin du petit comme de la prunelle de ses yeux et qui fera tout ce que vous lui commanderez. n'a qu'un défaut, c'est de dire trois fois « plaît-il » à chaque parole qu'on lui adresse. Mais que voulez-vous? Elle s'imagine que c'est une politesse et qu'on la gronderait si elle faisait pas semblant d'être sourde. « Mais vous êtes ma providence, » dit Marcel. « Et j'admire que dans une situation qui devait me susciter mille embarras, il se trouve sur mon chemin un cœur excellent qui vienne à mon secours. Bon, ce sont de petits services d'amitié que vous me rendrez d'une autre façon. Vous m'avez déjà grandement servi, sans vous en douter, depuis que vous êtes ici. »
Et comment cela ?
Oh, nous causerons de cela plus tard, dit le meunier d'un air mystérieux, et avec un sourire où le sérieux de sa passion faisait un étrange contraste avec l'enjouement de son caractère. Le départ du meunier, des domestiques ayant été résolus, d'un commun accord, pour le soir même, à la fraîche, comme disait Grand Louis, Marcel, n'ayant plus que quelques instants pour écrire avant le dîner de la ferme, traça rapidement les deux billets suivants. Premier billet. Marcel, baronne de Ranchemont, à la comtesse de Blanchemont, sa belle-mère. Chère maman, je m'adresse à vous comme à la plus courageuse des femmes et à la meilleure tête de la famille, pour vous annoncer et vous charger d'annoncer au respectable comte et à nos autres chers parents une nouvelle qui vous affectera, j'en suis sûr, plus que moi. Vous m'avez souvent fait part de vos appréhensions et nous avons trop causé du sujet qui m'occupe en ce moment pour que vous ne m'entendiez pas à demi-mot. Il n'y a plus rien, mais rien, de la fortune d'Édouard. De la mienne, il reste 250 000 ou 300 000 francs. Je ne connais encore ma situation que par un homme qui serait intéressé à exagérer le désastre, si la chose était possible, mais qui a trop de bon sens pour tenter de me tromper, puisque demain après demain, je puis m'instruire par moi-même. Je vous renvoie le bon Lapierre et n'ai pas besoin de vous engager à le reprendre chez vous. Vous me l'aviez donné pour qu'il mît un peu d'ordre et d'économie dans les dépenses de la maison. Il a fait son possible. Mais qu'était-ce que ces épargnes domestiques, lorsque dehors la prodigalité était sans contrôle et sans limite? De petites raisons qu'il vous expliquera lui-même me forcent à brusquer son départ. Voilà pourquoi je vous écris, en courant, et sans entrer dans des détails que je ne possède pas moi-même et qui viendront plus tard. Je tiens à ce que Lapierre vous voie seul et vous remette ceci, afin que vous ayez quelques heures ou quelques jours au besoin pour préparer le comte à cette révélation. Vous l'adoucirez en lui disant mille fois tout ce que vous savez de moi, combien je suis indifférente aux jouissances de la richesse, et combien je suis incapable de maudire qui que ce soit et quoi que ce soit dans le passé. Comment ne pardonnerais-je pas à celui qui a eu le malheur de ne pas vivre assez pour tout réparer? Chère maman, que sa mémoire reçoive de votre cœur et du mien une entière et facile absolution. Maintenant, deux mots sur Édouard et sur moi, qui ne faisons qu'un dans cette épreuve de la destinée. Il me restera, je l'espère, de quoi pourvoir à tous ses besoins et à son éducation. Il n'est pas d'âge à s'affliger de pertes qu'il ignore, et qu'il sera bon de lui laisser ignorer autant que possible lorsqu'il sera capable de les comprendre. N'est-il pas heureux pour lui que ce changement dans sa situation s'opère avant qu'il ait pu se faire un besoin de vivre dans l'opulence? Si c'est un malheur d'être réduit au nécessaire, oh, ce n'en est pas un, mes yeux. Il ne le sentira pas, et habitué désormais à vivre modestement, il se croira assez riche. Puisqu'il était destiné à tomber dans une condition médiocre, C'est donc un bienfait de la Providence de l'y avoir fait descendre dans un âge où la leçon, loin d'être amère, ne peut que lui être utile. Vous me direz que d'autres héritages lui sont réservés. Je suis étrangère à cet avenir et ne veux en aucune façon en profiter d'avance. Je refuserais presque comme un affront les sacrifices que sa famille voudrait s'imposer pour me procurer ce qu'on appelle un genre de vie honorable. Dans l'appréhension de ce que je viens d'apprendre, j'avais déjà fait mon plan de conduite. Je viens de m'y conformer, et rien au monde ne m'en fera repartir. Je suis résolu à m'établir en province, au fond d'une campagne où j'habituerai les premières années de mon fils à une vie laborieuse et simple, et où il n'aura pas le spectacle et le contact de la richesse d'autrui pour détruire le bon effet de mes exemples et de mes leçons. Je ne perds pas l'espérance d'aller vous le présenter quelquefois, et vous verrez avec plaisir un enfant robuste et enjoué au lieu de cette frêle et rêveuse créature pour l'existence de laquelle nous n'avions cessé de trembler. Je sais les droits que vous avez sur lui et le respect que je dois à vos volontés et à vos conseils. Mais j'espère que vous ne blâmerez pas mon projet et que vous me laisserez gouverner cette enfance durant laquelle les soins assidus d'une mère et les salutaires influences de la campagne seront plus utiles que les leçons superficielles d'un professeur grassement payé, des exercices de manège et des promenades en voiture au bois de Boulogne. Quant à moi, ne vous inquiétez nullement, je n'ai aucun regret à ma vie nonchalante et à mon entourage d'oisiveté. J'aime la campagne de passion et j'occuperai les longues heures que le monde ne me volera plus à m'instruire pour instruire mon fils. Vous avez eu jusqu'ici quelque confiance en moi. Voici le moment d'en avoir une entière. J'ose y compter, sachant que vous n'avez qu'à m'interroger votre âme énergique et votre cœur profondément maternel pour comprendre mes desseins et mes résolutions. Oh, tout cela rencontrera bien quelque opposition dans les idées de la famille. Mais quand vous aurez prononcé que j'ai raison, tous seront de votre avis. Je remets donc notre présent et notre avenir entre vos mains, et je suis avec dévouement, tendresse et respect à vous pour la vie. Marcel. Suivait un post-scriptum relatif à Suzette et la demande d'envoyer l'homme d'affaires de la famille au Blanc afin qu'il pût constater la ruine de cette fortune territoriale et d'occuper activement de la liquidation. Quant à ses affaires personnelles, Marcel voulait et pouvait les liquider elle-même avec l'aide des hommes compétents de la localité. La seconde lettre était adressée à Henri Lénore. Henri, quel bonheur, quelle joie! Je suis ruiné. Vous ne me reprocherez plus ma richesse, vous ne haïrez plus mes chaînes dorées. Je redeviens une femme que vous pouvez aimer sans remords et qui n'a plus de sacrifice à s'imposer pour vous. Mon fils n'a plus de riche héritage à recueillir, du moins immédiatement. J'ai le droit désormais de l'élever comme vous l'entendez, d'en faire un homme, de vous confier son éducation et de vous livrer son âme tout entière. Je ne veux pas vous tromper. Nous aurons peut-être une petite lutte à soutenir contre la famille de son père, dont l'aveugle tendresse et l'orgueil aristocratique voudront le rendre au monde en l'enrichissant malgré moi. Mais nous triompherons avec de la douceur, un peu d'adresse et beaucoup de fermeté. Je me tiendrai assez loin de leur influence pour la paralyser, et nous entourerons d'un doux mystère le développement de cette jeune âme. Ce sera l'enfance de Jupiter au fond des grottes sacrées. Et quand il sortira de cette divine retraite pour essayer sa puissance, quand la richesse viendra le tenter, nous lui aurons fait une âme forte contre les séductions du monde et la corruption de l'or. Henri, je me berce des plus douces espérances. Ne venez pas les détruire avec des doutes cruels et des scrupules que j'appellerais alors pusillanimes. Vous me devez votre appui et votre protection maintenant que je vais m'isoler d'une famille pleine de sollicitude et de bonté, mais que je quitte et vais combattre par la seule raison qu'elle ne partage pas vos principes. Ce que je vous ai écrit il y a 2 jours en quittant Paris est donc pleinement et facilement confirmé par ce billet. Je ne vous appelle pas auprès de moi maintenant, je ne le dois pas, et la prudence d'ailleurs exige que je reste assez longtemps sans vous voir pour qu'on n'attribue pas à mes sentiments pour vous l'exil que je m'impose. Je ne vous dis pas le lieu que j'aurai choisi pour ma retraite, je l'ignore. Mais dans 1 an, Henri, cher Henri, à partir du 15 août, vous viendrez me rejoindre, où je serai fixé alors et où je vous appellerai. Jusque-là, si vous ne partagez pas ma confiance en moi-même, j'aime mieux que vous ne m'écriviez pas. Mais aurais-je la force de vivre 1 an sans rien savoir de vous? Non, ni vous non plus. Écrivez donc 2 mots seulement pour dire « J'existe et j'aime ». Et vous adresserez pour moi, mon fidèle vieux Lapierre, à l'hôtel de Blanchemont. Adieu, Henri. Oh, si vous pouviez lire dans mon cœur et voir que je vaux mieux que vous le pensez. Édouard se porte bien, il ne vous oublie pas. Lui seul, désormais, me parlera de vous. M.B. Ayant cacheté ces 2 lettres, Marcel, qui n'avait plus d'autre vanité au monde que la beauté angélique de son fils, rafraîchit un peu la toilette d'Édouard et traversa la cour de la ferme. On l'attendait pour dîner et, pour lui faire honneur, on avait mis le couvert dans le salon, vu qu'on n'avait pas d'autre salle à manger que la cuisine, où l'on ne craignait pas de salir les meubles, et où Madame Bricolin se trouvait beaucoup plus à portée des mets qu'elle confectionnait elle-même avec l'aide de sa belle-mère et de sa servante. Marcel s'aperçut bientôt de cette dérogation aux habitudes de la famille. Madame Bricolin, dont l'empressement était instinctivement emprunt de la mauvaise humeur qui constitue la seule mauvaise éducation en ce genre, eut soin de l'en instruire en lui demandant à tout propos pardon de ce que le service faisait si mal et déroutait complètement ses servantes. Marcel demanda et exigea dès lors qu'on reprît le lendemain les habitudes de la maison, assurant avec un sourire enjoué qu'elle irait dîner au moulin d'Angibault si on la traitait avec cérémonie. Et à propos de moulin, dit Madame Bricolin, après quelques phrases de politesse mal tournées, il faut que je fasse une scène à Monsieur Bricolin. Ah, le voilà justement. Dis donc, Monsieur Bricolin, est-ce que t'as perdu l'esprit d'inviter ce meunier à dîner avec nous, un jour où Madame la Baronne nous fait l'honneur d'accepter notre repas? Bah, diable, j'y avais pas songé, répondit naïvement le fermier. Ou plutôt, je pensais, fait quand j'ai invité Grand Louis, que Madame ne nous ferait pas cet honneur-là. Monsieur le Baron refusait toujours, tu sais bien. On le servait dans sa chambre, ce qui n'était guère commode, par parenthèse. Enfin, Thibaud, si ça déplaît à Madame de manger avec ce garçon-là, tu le lui diras, toi qui n'as pas la langue dans ta poche. Moi, je m'en charge pas, je fais la bêtise, ça me coûte de la réparer. Mais ça me regarde comme de coutume, dit l'aigre Madame Bricolin, qui étant l'aînée des filles Thibault, conservait son nom de famille féminisé suivant l'ancien usage du pays. « Alors, je vais renvoyer ton beau Louis à sa farine.
Ben, »« Ce serait me faire beaucoup de peine, et je crois que je m'en irai moi-même, » dit madame de Blanchemont, d'un ton ferme et même un peu sec, qui imposa la fermière. J'ai déjeuné ce matin avec ce garçon chez lui, et je l'ai trouvé si obligeant, si poli et si aimable, que ce serait un vrai chagrin pour moi de dîner sans lui ce soir.
Vraiment ? Dit la belle Rose, qui avait écouté Marcel avec beaucoup d'attention et dont les yeux animés exprimaient une surprise mêlée de plaisir. Mais elle les baissa et devint toute rouge en rencontrant le regard scrutateur et menaçant de sa mère.
Il en sera comme madame voudra, dit madame Bricolin.
Et elle ajouta tout bas en s'adressant à sa servante, qui avait le privilège de ses observations confidentielles quand elle était en colère.
« Ce que c'est que d'être un bel homme !»
La Chounette, diminutif de Fanchon, sourit d'un air malicieux qui la rendit plus laide que de coutume. Elle trouvait le meunier un fort bel homme, en effet, et lui en voulait de ce qu'il ne lui faisait pas la cour.
« Allons !» dit M. Bricolin. Le meunier dînera donc avec nous.
Mais madame a raison de ne pas être fière. C'est le moyen de trouver toujours de la bonne volonté chez les autres.
Rose, va donc appeler le grand Louis qui est par là dans la cour. Dis-lui que la soupe est sur la table.
Ça m'aurait coûté de faire un affront à ce garçon. Savez-vous, madame la baronne, que j'ai raison de tenir à ce meunier-là? C'est le seul qui ne retienne pas double mesure et qui ne change pas le grain. Oui, c'est le seul du pays, le diable me confonde. Ils sont tous plus voleurs les uns que les autres. D'ailleurs, le proverbe du pays le dit, tout meunier, tout voleur. Ben, je les ai tous essayés, et je n'ai encore trouvé que celui-là qui ne fit pas de mauvais compte et de vilain mélange. Outre qu'il a toutes sortes d'intentions pour nous. Il ne moudrait jamais mon froment à la meule qui vient de broyer de l'orge et du seigle. Il sait que cela gâte la farine et lui ôte sa blancheur. Il met de l'amour propre à me contenter, parce qu'il sait que je tiens à avoir du beau pain sur ma table. C'est ma seule fantaisie à moi. Je suis humilié quand quelqu'un venant chez moi ne me dit pas « Oh, le beau pain !» Il n'y a que vous, maître Bricolin, pour faire du bouilleur Paris-blé. Tout blé d'Espagne, mon cher, on s'en flatte. Il est certain qu'il est magnifique, votre pain, dit Marcel, pour faire valoir le meunier autant que pour satisfaire la vanité de monsieur Bricolin.
Oh, mon Dieu, que de soucis pour un œil de plus ou de moins dans le pain et pour un boisseau de plus ou de moins par semaine, dit madame Bricolin. Quand nous avons des meuniers beaucoup plus près et un moulin au bas du terrier, avoir affaire à un homme qui demeure à une lieue d'ici. Mais qu'est-ce que ça te fait, dit monsieur Bricolin, puisqu'il vient chercher les sacs et qu'il les rapporte sans prendre un grain de blé de plus que la nourriture. D'ailleurs, il a un beau et bon moulin, deux grandes rouleuves, un fameux réservoir, et l'eau ne manque jamais chez lui. C'est agréable de jamais attendre.
Et puis, comme il vient de loin, dit la fermière, vous vous croyez toujours obligé de l'inviter à dîner ou à goûter. Voilà une économie.
Le meunier, en arrivant, mit fin à cette discussion conjugale.
M. Bricolin se contentait, quand sa femme le grondait, de hausser un peu les épaules et de parler un peu plus vite que de coutume. Il lui pardonnait son humeur acariâtre, parce que l'activité et la parcimonie de sa ménagère lui étaient fort utiles.
« Allons donc, Rose !» s'écria madame Bricolin à sa fille, qui entrait avec le grand Louis.
« Nous t'attendons pour nous mettre à table. Tu aurais bien pu faire avertir le meunier par la choulette au lieu d'y courir toi-même.
Mais mon père me l'avait commandé, dit Rose.
Vous n'y seriez pas venu sans cela, j'en suis bien sûr, dit le meunier tout bas à la jeune fille.
C'est pour me remercier d'être grondé à cause de vous que vous me dites cela, répondit Rose sur le même ton.
Marcel n'entendit pas ce qu'il se disait, mais ces paroles furtives échangées entre eux, la rougeur de Rose et l'émotion du grand Louis la confirmèrent dans les soupçons que lui avait déjà fait concevoir l'aversion de Madame Bricolin pour le pauvre farinier. La belle Rose était l'objet des pensées du meunier d'Angibault. Chapitre 11. Le dîner à la ferme. Désireuse de servir les intérêts de cœur de son nouvel ami, et n'y voyant pas de danger pour Mademoiselle Bricolin, puisque son père et sa grand-mère paraissaient favoriser le grand Louis, Madame de Blanchemont affecta de lui parler beaucoup durant le repas et d'amener la conversation sur les sujets où véritablement son instruction et son intelligence le rendaient très supérieur à toute la famille Bricolin, peut-être à la charmante Rose elle-même. En agriculture, considérée comme science naturelle plus que comme expérimentation commerciale, en politique, considérée comme recherche du bonheur et de la justice humaine, en religion et en morale, le grand Louis avait des notions élémentaires, mais justes, élevées, marquées au coin du bon sens, de la perspicacité, de la noblesse de l'âme, qui n'avaient jamais été mises en lumière à la ferme. Les Bricolins n'y avaient jamais que des sujets de conversation grossièrement vulgaires, et tout l'esprit qu'on y dépensait était tourné en propos dénigrants et peu charitables contre le prochain. Grand Louis, n'aimant ni les lieux communs ni les méchancetés, y parlait peu et n'avait jamais fait remarquer sa capacité. Monsieur Bricolin avait décrété qu'il était fort sot comme tous les beaux hommes, et Rose, qu'il avait toujours trouvé amoureux, craintif ou mécontent, c'est-à-dire taquin ou timide, ne pouvait l'excuser de son manque d'esprit qu'en vantant son excellent cœur. On fut donc étonné, d'abord, de voir Madame de Blanchemont causer avec lui, avec une sorte de préférence, et quand elle l'eut amené à oublier le trouble que lui causait la présence de Rose et le mauvais vouloir de sa mère, on fut bien plus étonné encore de l'entendre aussi bien parler. 5 ou 6 fois, M. Bricolin, qui ne se doutant nullement de son amour pour sa fille, l'écoutait avec bienveillance, fut émerveillé. Il s'écria en frappant sur la table, « Mais tu sais donc cela, toi ? Mais où diable as-tu pêché tout cela ?»« Bon, dans la rivière !» répondait Grand Louis avec gaieté. Madame Bricolin tomba peu à peu dans un silence sombre en voyant le succès de son ennemi. Elle formait la résolution d'avertir le soir même M. Bricolin de la découverte qu'elle avait faite ou cru faire des sentiments de ce paysan pour sa demoiselle. Quant à la vieille mère Bricolin, elle ne comprenait rien du tout à la conversation, mais elle trouvait que le meunier parlait comme un livre, parce qu'il s'assemblait plusieurs phrases de suite, sans hésiter et sans se reprendre. Rose n'avait pas l'air d'écouter, mais elle ne perdait rien. Et involontairement, ses yeux s'arrêtaient sur le grand Louis. Il y avait là un 5e Bricolin auquel Marcel fit peu d'attention. C'était le vieux père Bricolin, vêtu en paysan comme sa femme, mangeant bien, ne disant mot, et n'ayant pas l'air d'en penser davantage. Il était presque sourd, presque aveugle, et paraissait complètement idiot.
Sa vieille moitié l'avait amené à table en le conduisant comme un enfant. Elle s'occupait beaucoup de lui, remplissait son assiette et son verre, lui ôtait la mie de son pain parce que, n'ayant plus de dents, ses gencives durcies et insensibles ne pouvaient broyer que les croûtes les plus dures, et ne lui adressait pas une parole comme si c'eût été peine perdue. Lorsqu'il s'assit, elle lui fit entendre cependant qu'il fallait ôter son chapeau à cause de Madame de Blanchemont. Il obéit, mais ne parut pas comprendre pourquoi, et il le remit aussitôt, liberté que, d'après l'usage du pays, M. Bricolin, son fils, se permit également. Le meunier, qui n'y avait pas dérogé le matin au moulin, fourra cependant son bonnet dans sa poche, sans qu'on s'en aperçût, partagé entre un nouvel instinct de déférence que Madeleine lui inspirait pour les femmes et la crainte de paraître jouer au freluquet pour la première fois de sa vie. Cependant, tout en admirant ce qu'il appelait le beau bagout du grand farinier, M. Bricolin se trouva bientôt d'un autre avis que lui sur toute chose. En agriculture, il prétendait qu'il n'y avait rien de neuf à tenter, que les savants n'avaient jamais rien découvert, qu'en voulant innover, on se ruinait toujours, et que depuis que le monde est monde, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on avait toujours fait de même et qu'on ne ferait jamais mieux. « Bon, dit le meunier, et les premiers qui ont fait ce que nous faisons aujourd'hui, ceux qui ont attelé des bœufs pour ouvrir la terre et pour ensemencer, ils ont fait du neuf, cependant, et on aurait pu les en empêcher, en se persuadant qu'une terre qu'on n'avait jamais cultivée ne deviendrait jamais fertile. » C'est comment politique, dites donc, monsieur Bricolin. S'il y a 100 ans, vous avez dit que vous ne paieriez plus ni dîmes ni redevances, que les couvents seraient détruits. Bon, je l'aurais peut-être pas cru, c'est vrai, mais c'est arrivé parce que ça devait arriver. Tout est pour le mieux au jour d'aujourd'hui. Tout le monde est libre de faire fortune et on n'inventera jamais mieux que ça. Et les pauvres, les paresseux, les faibles, les bêtes, qu'est-ce que vous en faites? Vous n'en faites rien puisqu'ils sont bons à rien. Tant pis pour eux. Et si vous en étiez, monsieur Bricolin, ce qu'à Dieu le plaise, vous en êtes bien loin. Diriez-vous, tant pis pour moi? Non, vous ne m'avez pas dit ce que vous pensiez en répondant tant pis pour eux, vous avez trop de cœur. Et de religion pour ça. De la religion, moi, je m'en moque, de la religion. Et toi aussi. Je vois bien que ça essaie de revenir, mais je m'en inquiète guère. Notre curé est un bon vivant et je le contrarie pas. Si c'était un cadeau, je l'enverrais joliment en promener. Qu'est-ce qui croit à toutes ces bêtises-là au jour d'aujourd'hui? Et votre femme, et votre mère, et votre fille, disent-elles que ce sont des bêtises? Bon, ça leur plaît, ça les amuse. Les femmes ont besoin de ça, ce qui paraît. Et nous autres paysans, nous sommes comme les femmes, nous avons besoin de religion. Eh bien, vous en avez une sous la main, allez à la messe. Je vous en empêche pas pourvu que vous ne me forciez pas d'y aller. Cela peut arriver, cependant, si la religion que nous avons devient fanatique et persécutante comme elle l'a été si fort et si souvent. Ben, ne vaut donc rien, alors laissez-la tomber, je m'en passe bien, moi. Mais puisqu'il vous en faut une absolument à nous autres, c'est donc une autre qu'il nous faudrait avoir. Une autre, oh diable, comme tu y vas. Fais-en donc une, toi. Ben, je voudrais en avoir une qui empêcha les hommes de se haïr, de se contraindre et de se nuire. Ben, ce serait neuf, en effet. J'en voudrais bien une comme ça, qui empêcherait mes métayers de me voler mon blé la nuit, et mes journaliers de mettre 3 heures par jour à manger leur soupe. Cela serait si vous aviez une religion qui vous commandât de les rendre aussi heureux que vous-même.
Grand Louis, vous avez la vraie religion dans le cœur, dit Marcel.
C'est vrai cela, dit Rose avec effusion.
Monsieur Bricolin osa répliquer. Il tenait beaucoup à gagner la confiance de Madame de Blanchemont et à ne pas lui donner mauvaise opinion de lui.
Grand Louis, qui vit le mouvement de Rose, regarda Marcel avec un œil plein de feu qui semblait lui dire « Oh, je vous remercie !»
Le soleil baissait et le dîner qui avait été copieux touchait à sa fin. Monsieur Bricolin, qui s'appesantissait sur sa chaise grâce à une large réflexion et à des rasades abondantes, il voulut se livrer à son plaisir favori, qui était de prendre du café arrosé d'eau-de-vie et entremêlé de liqueurs pendant 2 ou 3 heures de la soirée. Mais le grand Louis, sur lequel il avait compté pour lui tenir tête, quitta la table et alla se préparer au départ. Madame de Blanchemont alla recevoir les adieux de ses domestiques et régler leurs comptes. Elle leur remit sa lettre pour sa belle-mère, et prenant le meunier à l'écart, elle lui confia celle qui était adressée à Henri, en le priant de la mettre lui-même à la poste.
« Soyez tranquille, dit-il, comprenant qu'il y avait là un peu de mystère. Cela sortira de ma main que pour tomber dans la boîte, sans que personne y ait jeté les yeux, pas même vos domestiques, n'est-ce pas ?»«
Merci, mon brave Louis.
Merci. Vous me dites merci. Oh, c'est moi qui devrais vous dire à cela, à deux genoux. Alors vous ne savez pas ce que je vous dois. Bon, je vais en passer par chez nous et dans 2 heures, la petite Franchon sera auprès de vous. Elle est plus propre et plus douce que la grosse Choulette d'ici. »
Et quand Louis et la Pierre furent partis, Marcel eut un instant de détresse morale en se trouvant seul à la merci de la famille Bricolin. Elle se sentit fort attristée, et prenant Édouard par la main, elle s'éloigna et gagna un petit bois qu'elle voyait de l'autre côté de la prairie. Il faisait encore grand jour, et le soleil, en s'abaissant derrière le vieux château, projetait au loin l'ombre gigantesque de ses hautes tours. Mais elle n'alla pas loin sans être rejointe par Rose, qui se sentait une grande attraction pour elle, et dont l'aimable figure était le seul objet agréable qui put frapper ses regards en cet instant.
Je veux vous faire les honneurs de la garenne, dit la jeune fille. C'est mon endroit favori, et vous l'aimerez, j'en suis sûr.
Quelle qu'il soit, votre compagnie me le fera trouver agréable, répondit Marcel, en passant familièrement son bras sous celui de Rose.
L'ancien parc seigneurial de Blanchemont, abattu à l'époque de la Révolution, était clos désormais par un fossé profond, rempli d'eau courante, et par de grandes haies vives où Rose laissa un bout de garniture de sa robe de mousseline avec la précipitation et l'insouciance d'une fille dont le trousseau est au grand complet. Les anciennes souches des vieux chênes s'étaient couvertes de rejets, et la garenne n'était plus qu'un épais taillis sur lequel dominaient quelques sujets épargnés par la cognée, semblables à de respectables ancêtres étendant leurs bras noueux et robustes sur une nombreuse et fraîche postérité. De jolis sentiers montaient et descendaient par des gradins naturels établis sur le roc et serpentaient sous un ombrage épais, quoique peu élevé. Ce bois était mystérieux. On y pouvait errer librement, appuyé au bras d'un amant. Marcel chassa cette pensée qui faisait battre son cœur, et tomba dans la rêverie en écoutant le chant des rossignols
des linottes et des merles qui peuplaient le bocage désert et tranquille. La seule avenue que le taillis n'eût pas envahie était située à la lisière extrême du bois et servait de chemin d'exploitation. Marcel en approchait avec Rose et son enfant courait en avant. Tout d'un coup, il s'arrêta et revint lentement sur ses pas, indécis, sérieux et pâle. « Qu'est-ce qu'il y a ?» lui demanda sa mère, habituée à deviner toutes ses impressions en voyant qu'il était combattu entre la crainte et la curiosité.
« Il y a une vilaine femme là-bas, » répondit Édouard.
Oh, « on peut être vilain et bon, » répondit Marcel. « La pierre est bien bon et il n'est pas beau. »«
Oh, la pierre est pas laid, » dit Édouard, qui, comme tous les enfants, admirait les objets de son affection.
« Donne-moi la main, » reprit Marcel, « et allons voir cette vilaine femme. »
Non, 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 n'y allez pas. C'est inutile, dit Rose d'un air triste et embarrassé, sans pourtant manifester aucune crainte.
Oh, je ne pensais pas qu'elle était là.
Mais je veux habituer Édouard à vaincre la peur, lui répondit Marcel à demi-voix. Et Rose, n'osant la retenir, elle doubla le pas. Mais lorsqu'elle fut au milieu de l'avenue, elle s'arrêta, frappée d'une sorte de terreur à l'aspect de l'être bizarre qui venait lentement à sa rencontre.